Escalade, ma radio.
La Méridienne.
Allez, c'est l'heure de la rubrique couleurs, nuances du monde.
Nuances du monde, tout à fait.
Et on est avec Jean-François pour ça aujourd'hui. Bonjour.
Bonjour Mathieu.
J'ai cru comprendre que tu allais nous parler de JFK.
Effectivement, puisque figure-toi que ce 22 novembre 2023, on fête les 60 ans de l'assassinat jour pour jour de JFK, John Fitzgerald Kennedy, qui était le 35e président des États-Unis assassiné, hein, comme on se souvient, en pleine rue à Dallas. Dans sa voiture, ouais. Effectivement, avec ses gardes du corps, sa femme à côté. Je ne vais pas trop revenir sur son meurtre ni sur toutes les théories du complot qui en découlent, parce que là, il nous faudra beaucoup plus de 10 minutes.
Il y a plein de fantasmes, il y a un film sur 5 où on voit. Voilà, je sais pas, dans toute la pop culture, il y a un paquet,
ça revient tout le temps. Ouais. Donc, je vous propose plutôt de faire un bilan de ces 1036 jours à la tête des États-Unis, de celui qui demeure le président préféré des États-Unis. Adulé donc, mais aussi critiqué avec véhémence par la suite par une partie de la population américaine. Alors, qu'est-ce qui se cache derrière le mythe Kennedy ? C'est la question du jour. Il est le fils de Joseph Kennedy, qui fit fortune dans les alcools pendant la période de la Prohibition. Mmh. Alors, sûrement avec le soutien de la mafia. La vie de John Fitzgerald Kennedy est un véritable roman au final. Il est issu donc d'une riche famille de Boston, de souche irlandaise et catholique, ce qui est assez original pour un homme politique après, parce que ça va être le premier président américain catholique, dans un pays plutôt protestant, tout à fait. Sa carrière va très vite devenir source de polémiques. Ainsi, pour commencer, même avant le début politique, dans sa jeunesse, il est engagé dans les forces navales durant la Seconde Guerre mondiale. On pensait que Kennedy avait été un des héros de la guerre du Pacifique, et en fait, pas du tout. Aux commandes de son patrouilleur 109, une vedette lance-torpille, on croyait qu'il avait manœuvré comme un héros pour sauver des compatriotes, mais en fait, il a commis une grave erreur qui a coûté la mort de deux compagnons. Et son attitude donc n'a pas été héroïque. C'est pourtant le récit officiel qui a paru dans la presse, les brochures également, qui ont été diffusées par centaines de milliers d'exemplaires, et même un film a été fait durant son mandat. Il était sorti en 1963, c'est le film PT-109, qui ont transformé donc les péripéties en un exploit de la guerre navale et fait avancer à pas de géant la carrière politique du héros de Kennedy. John est aussi présenté comme un mari attentionné, bon père de famille et un politicien honnête. Là encore, l'effet démente sa réputation. Kennedy a accumulé des aventures sentimentales, notamment avec de nombreuses actrices d'Hollywood, dont la plus célèbre est Marilyn Monroe. Mmh. Pire, dans les années 60, il fréquente une certaine Judith Exner, qui n'est autre que la maîtresse de Gian Giancana, patronne de la mafia de Chicago. Donc imaginez que cette femme qui a des relations avec la mafia va parfois à la Maison Blanche, voilà. Cette collusion entre Kennedy et la mafia sera d'ailleurs un fil rouge de sa légende noire. Mmh. Et les mauvaises langues disent d'ailleurs que JFK était l'homme de la mafia à la Maison Blanche. D'autre part, Kennedy, qui n'a cessé d'exalter la vigueur, souffrait d'une malformation de la colonne vertébrale et de la maladie d'Addison, qui est due à une insuffisance de glandes surrénales qui entraîne des très fortes douleurs abdominales et des handicaps physiques qu'il cachait le mieux possible. En 54-55, il se fait d'ailleurs opérer plusieurs fois, et même une fois, lors d'une de ses opérations, il reçoit l'extrême onction parce qu'on pensait qu'il n'allait pas s'en sortir, qu'il allait mourir dans le bloc. Mais finalement, malgré toutes ces solutions, ces douleurs, Kennedy, en 1960, il dément catégoriquement devant les médias être atteint de quelconque maladie. Mais malgré tout, son dos lui fait vraiment très souffrir et il a recours à des piqûres d'amphétamines, à des stéroïdes pour rester en forme et pour tenir le coup, voire même à drogue douce également. Alors mais tout cela, ça ne sort pas dans les médias.
Il passe pour un président jeune et plein de vigueur.
Exactement. Aïe. Et ce n'était pas le cas. Vous me direz, bon, ce n'était pas le premier président ni le dernier homme politique à mener une double vie et à cacher ses faiblesses. Hein, ça paraît aussi normal. L'essentiel n'est donc pas là. Donc avançons vers des éléments plus objectifs et parlons de sa politique en commençant par les affaires extérieures. Alors, au cours de sa campagne électorale de 1960, puis pendant l'année 61, Kennedy a défini les grands objectifs de sa politique étrangère. Les États-Unis, je vous le rappelle, sont alors engagés dans ce qu'on appelle la guerre froide. Pas question donc de faiblir pour lui dans l'endiguement du communisme. Plus que tout, Kennedy rejette la passivité. Il est un homme d'action, comme tu l'as dit, un homme jeune, de l'engagement et de la fermeté. Il reproche d'ailleurs à son prédécesseur Dwight Eisenhower d'avoir terni le prestige des États-Unis. Et lui, il promet que les États-Unis retrouveront leur puissance militaire et amélioreront leurs relations avec le monde communiste. Ils défendront Berlin-Ouest notamment, redonneront vigueur à l'OTAN, tourneront leur regard vers le tiers-monde, c'est-à-dire vers l'Asie, l'Afrique et l'Amérique. Pour ce démocrate, d'ailleurs, les pays riches doivent aider les nations pauvres, ne serait-ce que pour éloigner la tentation marxiste et favoriser l'établissement de régimes démocratiques. En mars 61, il annonce ainsi la création d'une alliance pour le progrès, un fonds de 20 milliards de dollars pour assurer le développement économique dans les 10 ans à peu près de l'Amérique latine. Il met ainsi en place la Peace Corps le 1er mars 61 et deux ans plus tard, il y a 7000 volontaires américains qui servent dans 46 pays pour y enseigner pêle-mêle de nouvelles méthodes agricoles, des techniques industrielles et artisanales, les langues étrangères également et les connaissances indispensables au monde moderne.
Okay.
Kennedy a également promis de renforcer l'arsenal américain, et là, il tient promesse, puisqu'en octobre 62, la supériorité stratégique des États-Unis sur l'Union soviétique est vraiment incontestable. Ils ont beaucoup plus de missiles, des bombardiers aussi, beaucoup plus importants, etc.
Ouais,
en plus, ils ont aussi une force humaine plus importante, puisque plus de 500 hommes servent dans les forces conventionnelles américaines.
Ok. Jusqu'ici, c'est plutôt positif.
Jusqu'ici, tout va bien. Et même d'ailleurs, il a même mis en place le programme Apollo qui va permettre aux Américains d'aller sur la Lune le 21 juillet 1969.
Ouais, il y a un super discours où il dit on va le faire, on peut le faire.
Exactement. Ouais. Il a lancé ça avec la NASA, etc. Cependant, effectivement,
vu tout ce qui était joli, j'attendais un gros mais.
C'est ça. Trois échecs ternissent son bilan dans sa politique étrangère. D'abord avec l'Europe occidentale. Il souhaitait mettre en place un partnership, vraiment une association qui porterait à la fois sur les échanges commerciaux et sur les problèmes de défense qui limiterait le déséquilibre de la balance américaine. Ce projet se brise contre le refus du général de Gaulle, qui ne voulait pas laisser rentrer la Grande-Bretagne dans le marché commun européen. Désormais, l'Europe n'occupe plus du tout la première place dans la politique étrangère des États-Unis. L'OTAN n'a pas été renforcée et l'Amérique a en partie renoncé à son leadership. Deuxième échec, c'est Fidel Castro. Lorsque Kennedy est élu, les États-Unis viennent de rompre leurs relations diplomatiques avec Cuba. Et la CIA prépare une opération militaire pour renverser Castro. Kennedy, il donne son feu vert, il est d'accord avec ça, il le fait. Sauf que ça va être un désastre, c'est ce qu'on appelle le débarquement de la baie des cochons en avril 61, qui va être un échec total. Kennedy assume la responsabilité de cela, mais il renonce pas à renverser le castrisme et Castro, et il soutient toujours des raids révolutionnaires à Cuba. Il essaye de comploter contre l'assassinat, enfin pour l'assassinat plutôt du leader Maximo, donc de Fidel Castro. Et peine perdue, ça ne marche pas. Il y a même pire, la crise des missiles en octobre 62, qui prend fin, qui met fin donc, qui se termine pardon, avec les promesses des soviétiques de retirer de Cuba leurs rampes de missiles et leurs fusées et leurs bombardiers. Mais en échange, Kennedy, lui, promet de renoncer à chasser Castro du pouvoir. Ouais. Et il retire même les missiles Jupiter de Turquie qui menaçaient l'URSS. Alors donc, on peut se poser la question, est-ce qu'il fallait frôler la guerre nucléaire, donc la catastrophe planétaire, pour en arriver là? Est-ce que Kennedy a eu raison de mener une diplomatie des bords du gouffre, vraiment, qui a fait de lui le héros du monde livre, mais aurait pu le muer aussi en fossoyeur de l'humanité?
Ouais.
50 ans plus tard, même 60 ans plus tard, on peut se demander si Cuba menaçait vraiment les intérêts vitaux des États-Unis, hein, avec une petite île pareille. Quoi qu'il en soit, la crise démontre que l'Amérique a cessé d'être toute puissante, même sur son propre continent. Enfin, troisième crise, le Vietnam. Progressivement, dès 61, Kennedy y a déclenché la machine de guerre. En septembre 63, il a fait une réponse éclairante à la question d'un journaliste. Je ne suis pas d'accord avec ceux qui disent que nous devrions nous retirer. Ce serait une grande erreur. Et le président va même ajouter que, avec la bataille d'Indochine, ce qu'il appelle la bataille d'Indochine, ça ressemble à la bataille que l'Europe a menée un quart de siècle auparavant contre le nazisme. Donc, elle a pour objectif la défense de la liberté. Et en politique intérieure, Kennedy a aussi un bilan contrasté. D'abord, il avance prudemment, très prudemment, sur les questions sociales. Et pour un démocrate, ça peut paraître paradoxal. Mais pourquoi ? Déjà parce qu'il a besoin des élus démocrates du Congrès qui sont présents dans les États du Sud et qui, eux, défendent des positions très conservatrices. Pourtant, JFK fait entrer des Noirs dans l'administration fédérale, même dans des postes à responsabilité. D'ailleurs, la nomination du premier ambassadeur noir et celle du premier juge noir dans l'une des cours d'appel fédérales sont des exemples significatifs de son mandat. Cependant, le président va attendre le 11 juin 1963 pour prendre parti publiquement et entamer une vraie politique de déségrégation. Alors que ce programme vienne un peu tard et que Martin Luther King et les partisans du mouvement des droits civiques croient nécessaire en août 63 de marcher sur Washington pour accélérer son adoption, c'est une évidence. Ouais. Mais il faut quand même pas oublier donc qu'en annonçant ces propositions, Kennedy sait qu'il va se priver d'une partie de son électorat non négligeable, donc des voix du Sud, quelques mois seulement avant l'élection présidentielle de 64 à laquelle il comptait se présenter avant son assassinat. Ouais. Alors le reste est un petit peu plus flou. Il a mis en place le Medicare qui devait accorder la gratuité des soins aux hommes et aux femmes de plus de 65 ans. Et il va pas pouvoir le faire. Ouais. Ensuite, il va mettre de l'aide à l'éducation, mais c'est un petit projet à peine esquissé. Et bien des points de son programme de 1960 vont rester lettre morte.
Ouais.
Malgré tout, quelques points positifs, les discriminations à l'encontre des femmes sont interdites maintenant à l'embauche. Et il met en place des crédits d'aide pour les agriculteurs et pour les régions qui sont défavorisées. Et il s'engage dans la lutte contre la délinquance chez les jeunes. Et il construit des logements sociaux. Voilà. En plus, il fait quand même des enquêtes aussi contre le syndicat du crime, contre la mafia notamment. Donc c'est quand même toujours ambivalent.
D'accord.
En fait, finalement, il y a dans les 1000 jours de Kennedy comme un goût d'inachevé. L'impression qu'une évolution profonde était possible au lendemain de l'élection présidentielle de 64, que l'équipe de la Maison-Blanche et son chef avaient besoin d'un peu plus d'expérience, d'un peu plus de temps que son assassinat donc ne lui laissera pas.
Ouais. Très bien, merci beaucoup pour cette rubrique. Mais en fait, c'est le mythe du héros américain.
C'est exactement
ça. Il cache toujours quelques petites fêlures.
Quelques failles, exactement, c'est ça.
Merci beaucoup Jean-François,
merci.
À bientôt.
À bientôt.
Calade, la Méridienne.